seulement de sa chambre vers 11 heures, il aperçut Clotilde dans la salle, tranquillement occupée à faire un pastel très exact d'une branche d'amandier fleuri. Elle leva la tête, souriante, et, prenant une clé posée près d'elle, sur son pupitre, elle voulut la lui donner. « Tiens, maître !» Étonné, sans comprendre encore, il examinait l'objet qu'elle lui tendait. « Quoi donc ?»« C'est la clé de l'armoire que tu as dû laisser tomber de ta poche hier et que j'ai ramassée ici ce matin. » Alors Pascal la prit avec une émotion extraordinaire. Il la regardait, il regardait Clotilde. C'était donc fini ? Elle ne le persécuterait plus ? Elle ne s'enragerait plus à tout voler, à tout brûler ? Et la voyant très émue, elle aussi, il en eut une joie immense au cœur. Il la saisit, il l'embrassa. Ah, oh, fillette, si nous pouvions n'être pas trop malheureux ! Puis, il alla ouvrir un tiroir de sa table et il y jeta la clé, comme autrefois. Dès lors, il retrouva des forces. La convalescence marcha plus rapide. Des rechutes étaient possibles encore, car il restait bien ébranlé. Mais il put écrire. Les journées furent moins lourdes. Le soleil s'était également ragaillardi. La chaleur devenait déjà telle dans la salle qu'il fallait parfois clore à demi les volets. Il refusait de recevoir, tolérait à peine Martine, faisait répondre à sa mère qu'il dormait quand elle venait prendre de ses nouvelles de loin en loin. Et il n'était content que dans cette délicieuse solitude, soignée par la révoltée, l'ennemi d'hier, l'élève soumise d'aujourd'hui. De longs silences régnaient entre eux, sans qu'ils en fussent gênés. Ils réfléchissaient, ils rêvaient avec une infinie douceur. Pourtant, un jour, Pascal parut très grave. Il avait la conviction à présent que son mal était purement accidentel et que la question d'hérédité n'y avait joué aucun rôle. Mais cela ne l'emplissait pas moins d'humilité. « Mon Dieu ! Murmura-t-il, que nous sommes peu de choses. Moi, qui me croyais si solide, qui étais si fière de ma saine raison. Voilà qu'un peu de chagrin et un peu de fatigue ont failli me rendre fou. » Il se tut, réfléchit encore. Ses yeux s'éclairaient. Il achevait de se vaincre. Puis, dans un moment de sagesse et de courage, il se décida. « Si je vais mieux, c'est pour toi, surtout, que ça me fait plaisir. » Clotilde, ne comprenant pas, leva la tête. « Comment ça ? » ?»« Mais sans doute, à cause de ton mariage. Maintenant, on va pouvoir fixer une date. » Elle restait surprise. « Ah, c'est vrai, mon mariage. » « Veux-tu que nous choisissions, dès aujourd'hui, la seconde semaine de juin ?» « Oui, la seconde semaine de juin, ce sera très bien. » Ils ne parlèrent plus. Elle avait ramené les yeux sur le travail de couture qu'elle faisait, tandis que lui, les regards au loin, restait immobile, le visage grave. Chapitre 7. Ce jour-là, en arrivant à la Souleyade, la vieille Madame Rougon aperçut Martine dans le potager, en train de planter des poireaux. Et, profitant de la circonstance, elle se dirigea vers la servante pour causer et tirer d'elle des renseignements avant d'entrer dans la maison. Le temps passait. Elle était désolée de ce qu'elle appelait la désertion de Clotilde. Elle sentait bien que jamais plus elle n'aurait les dossiers par elle. Cette petite se perdait, se rapprochait de Pascal depuis qu'elle l'avait soigné. Et elle se pervertissait à ce point qu'elle ne l'avait pas revue à l'église. Aussi en revenait-elle à son idée première, l'éloigner, puis conquérir son fils quand il serait seul, affaibli par la solitude. Puisqu'elle n'avait pu la décider à suivre son frère, elle se passionnait pour le mariage. Elle aurait voulu la jeter dès le lendemain au cou du docteur Ramon, mécontente des continuelles lenteurs. Et elle accourait, cet après-midi-là, avec le besoin fiévreux de hâter les choses. « Bonjour Martine, comment va-t-on ici ?» La servante, agenouillée, les mains pleines de terre, leva sa face pâle, qu'elle protégeait contre le soleil, à l'aide d'un mouchoir noué sur sa coiffe. « Mais comme toujours, madame, doucement. » Et elles causèrent. Félicité la traitait en confidente, en fille dévouée, aujourd'hui de la famille, à laquelle on pouvait tout dire. Elle commença par la questionner, voulut savoir si le docteur Ramon n'était pas venu le matin. Il était venu, mais on n'avait pour sûr parlé que de choses indifférentes. Alors, elle se désespéra, car elle-même avait vu le docteur la veille, et il s'était confié à elle, chagrin de n'avoir pas de réponse définitive, pressé maintenant d'obtenir au moins la parole de Clotilde. Ça ne pouvait durer ainsi. Il fallait forcer la jeune fille à s'engager. « Il est trop délicat, » s'écria-t-elle. « Je lui avais dit. Je savais bien que, ce matin encore, il n'oserait pas la mettre au pied du mur. Mais je vais m'en mêler. Nous verrons si je n'oblige pas cette petite à prendre un parti. » Puis, se calmant, « Voilà mon fils debout, il n'a pas besoin d'elle. » Martine, qui s'était remise à planter ses poireaux, la taille cassée en deux, se redressa vivement. « Ah, ça, pour sûr !» Et, sur son visage usé par 30 ans de domesticité, une flamme se rallumait. C'était qu'une plaie saignait en elle, depuis que son maître ne la tolérait presque plus à son côté. Pendant toute sa maladie, il l'avait écartée, acceptant de moins en moins ses services, finissant par lui fermer la porte de sa chambre. Elle avait la sourde conscience de ce qui se passait. Une instinctive jalousie la torturait, dans son adoration pour ce maître dont elle était restée la chose durant de si longues années. « Pour sûr que nous n'avons pas besoin de mademoiselle. Je suffis bien à monsieur. » Alors, elle, si discrète, parla de ses travaux de jardinage, dit qu'elle trouvait le temps de faire les légumes afin d'éviter quelques journées d'homme. Sans doute la maison était grande,